know. What sort of sex did you have with him?
He taught me all about the birds and the bees.
Did you have oral penetration, my dear? Anal penetration? Vaginal penetration?
Vaginal penetration.
What happened? All right, now how did it start?
How did it start?
Did he pet you through? Did he grab your tit or what?
Yes, that's it. He grabbed my tit.
What was your reaction?
Devenue flogueuse, quels sont au fond les objets des films de Warhol? Qu'est-ce que Warhol a voulu filmer?
C'est toute une histoire qui a commencé pendant l'été 63, au moment où Warhol était à Los Angeles. Il était en train d'accompagner une exposition de sérigraphies de Liz Taylor, enfin, vous savez, cette série de portraits de Liz Taylor. Et puis tout d'un coup, il a acheté une caméra Bolex 16 mm et il s'est mis, à partir de ce moment-là, et pendant 4 ou 5 ans, non pas du tout en amateur, mais enfin avec une espèce de passion, à faire du cinéma. Ou alors en amateur, mais alors au sens le plus noble, c'est-à-dire en investissant là-dedans toute une espèce de fraîcheur esthétique et en même temps une volonté d'explorer le nouveau moyen d'expression qu'il avait. Et donc jusqu'à son assassinat, enfin son tentative d'assassinat en 68, il a fait du cinéma. Après, on lui a attribué des films, son nom est apparu au générique, mais c'était en réalité les films d'un de ses assistants, de Paul Morisset, qui est devenu lui-même un cinéaste intéressant. Mais...
Oui.
Alors pendant ces 4 ou 5 ans, il a fait des choses très différentes. Je crois qu'on peut peut-être distinguer 2 ou 3 périodes. Au début, c'est ça peut-être le plus intéressant. Au début, il redécouvre le cinéma avec vraiment une grande fraîcheur. C'est-à-dire qu'il fait un peu du cinéma à la manière des Frères Lumière. Enfin, ces films ont des structures narratives extrêmement simples, même un peu désinvoltes. Le premier film qu'il fait, c'est un film avec un certain Taylor Mead. Tarzan and Jane Regained, sort of.
Absolument, oui, oui.
C'est-à-dire, c'est une espèce de... Il brode sur le thème de Tarzan, mais avec des gens de son milieu, enfin, des gens du petit underground, du tout New York, enfin. Et puis, il y avait par exemple Claes et Pat Oldenburg dans ce premier film. Alors, le héros était incarné, le Tarzan en réalité était incarné par Taylor Mead, qui est un petit bonhomme rachitique et qui perdait sans arrêt son slip, paraît-il, dans le film. J'ai pas vu ce film. C'est son premier. Mais après, effectivement, il en fait des très simples, d'encore plus simples. Et dans la série, il y a Dormir ou Sommeil, qui dure, lui, 6h30, qui est un film alors célèbre parce que, en réalité, presque personne ne l'a vu. Mais enfin, il suffit de le raconter de le décrire pour que ça devienne un film mythique.
Mais ça n'avait jamais été fait avant. Alors, qu'est-ce qui se passait dans l'underground avant Warhol?
Oh, il y a déjà beaucoup de choses.
Hein. Oui.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler du groupe Fluxus, enfin des espèces de néo-dadaïstes internationaux. Il y avait dedans des gens comme Ben en France.
Oui.
C'était George McYunas, un Américain d'origine lituanienne, qui s'en occupait volontiers à New York. Et McYunas, d'ailleurs, vers 1968, a fait paraître un petit texte polémique en disant que, d'où il résultait que la plupart des films de Warhol, au fond, reprenaient des choses qui étaient un peu dans l'air du côté du mouvement Fluxus. C'est-à-dire, disons, du côté d'un certain art minimal ou conceptuel.
Est-ce que c'est vrai, ça?
C'est vrai, mais je crois que Warhol a fait les choses en même temps et sans savoir ce que faisaient les autres. Hein. Il l'a fait de lui-même et souvent avec beaucoup plus d'éclat. Et c'est ça, il a été plus loin et avec plus de génie, je dirais. Vous savez, il en avait fait un qui est peut-être le plus long film de l'histoire du cinéma. Il faisait 25 heures.
Oui.
C'est celui qui s'appelait Four Stars, 4 étoiles. Et c'était en réalité des mises bout à bout de plusieurs noms de films très longs qu'il avait fait dans les années 64, par là. Et il lui arrivait d'ailleurs de les projeter côte à côte sur deux écrans qui se jouxtaient, ou bien même en les superposant de façon à gagner du temps. Mais ça durait quand même 25 heures.
Mais est-ce qu'il avait l'intention de produire des effets précis sur le spectateur de film?
Je crois qu'il ne se serait pas permis. Il y a une espèce de désinvolture très dandy chez Warhol. Il ne se serait pas permis de vouloir faire quelque effet que ce soit sur le spectateur. Je crois qu'il faisait ça pour son plaisir, d'abord. Il a donné toutes sortes de raisons à son activité de cinéaste. Enfin, il y en a une qui n'est pas plus mauvaise qu'une autre. Il dit, souvent, quand on voit des films sous-entendus au sens hollywoodien, on est tout d'un coup fasciné par une vedette, un homme, une femme, on voudrait le voir en gros plan et on voudrait faire comme les certains projectionnistes qui gardent, qui découpent comme ça dans la pellicule et qui gardent des photogrammes de telles stars qu'ils aiment.
Enfin, on était prêts à tout.
Ultraviolet.
Il y a des films, par exemple, où les gens vraiment se seraient tués, carrément tués, pour que Warhol puisse l'enregistrer. Par exemple, Warhol avait dit à propos d'Idi, de Eddie, si par hasard elle overdose, il faudra absolument qu'on le filme. Évidemment, pour certains, ça a l'air d'être une parole très cruelle. Aux yeux de Warhol, pas tellement. Parce qu'il voulait dire que si en fait elle va vraiment se démolir et mourir, il faudrait absolument qu'on l'enregistre.
Mais il aimait surtout, je pense, les vedettes de chair et d'os. Et alors il y a des séries qui sont fascinantes de ce point de vue. C'est la série des baisers, par exemple Kiss. Alors ça, c'est chaque personnage qui acceptait de s'embrasser devant, donc qu'il soit deux, de s'embrasser devant la caméra qu'il avait installée dans son atelier, dans la factory, avait tout droit à 3 minutes, je pense.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door. Show that you're home when you think the night has...
Est-ce que c'est un cinéma ironique?
Ironique?
Oui.
On pourrait même parler d'humour, mais alors au sens le plus noble et le plus glacé et le plus invisible du mot. C'est pas un humour tapageur. Mais il y a un peu de ça, effectivement. Il y a une espèce de distance. Enfin, vous connaissez les réponses que Warhol faisait aux interviews. Et les phrases qui sont maintenant très célèbres, qu'il a pu répondre à un certain nombre de questions. C'est toujours très détaché, ça a toujours l'air d'être dit entre deux bâillements, et puis c'est finalement assez profond. Pour lui, qui n'aimait pas toucher les objets, et même les êtres, au fond. C'est un voyeur avant tout, Warhol. Le cinéma, c'est un moyen d'expression parfait, parce que ça permet d'atteindre tout sans rien toucher.
Il disait aussi que au cours de ses films, on pouvait, au fond, faire un tas de choses, boire, tousser, fumer, partir, revenir.
Oui, il l'a prétendu. Et alors, justement, Jonas Mekas, donc, qui est une espèce de Saint-François d'Assise du cinéma d'Orange à l'époque, qui s'est beaucoup dévoué à tous les autres et qui s'est occupé, dans ses années 60, de montrer les films dits underground, avait organisé la projection des premiers films de Warhol, en 63, je crois. Et il paraît qu'un soir, il y avait une projection, peut-être de Sleep, d'ailleurs, le film de 6h30, et Mekas raconte dans son journal filmique que, voyant arriver Warhol, qui s'installe au fond de la salle, il a été chercher une corde, en plaisantant, et il a attaché Warhol à son siège en lui disant « Maintenant, tu es là, tu ne bougeras pas jusqu'à la fin du film. » Il paraît que quand la lumière s'est rallumée après la dernière bobine, Warhol avait disparu, la corde était... Il avait retiré la corde.
Mais est-ce que vous faites une différence entre les films muets et les films parlants de Warhol?
Ah oui, parce qu'à un moment donné, il s'est mis à faire du cinéma parlant. Ah oui. Alors, ça devient très intéressant aussi, parce que il avait utilisé tout un aspect important de son cinéma. Il va utiliser on pourrait dire un cheptel d'acteurs et d'actrices qu'il va appeler, par une espèce de fascination pour Hollywood, d'imitation d'Hollywood, mais alors un peu ironique peut-être, qu'il va appeler des superstars, ou qui vont s'appeler des superstars, qui vont se donner des noms d'ailleurs extravagants. Il y a cette française qui s'appelait Ultraviolet, il y a Ingrid Superstar, etc.
Viva.
Le Viva, qui était très belle et qui ressemblait un peu à Monica Vitti.
Oui.
Et puis celui qui s'appelait le pape Ondine, Pope Ondine, qui est une espèce un drogué. Ce sont tous des personnages qui sont fascinants parce qu'ils ont, en général, ils sont très très égocentriques, ils ont toujours beaucoup de choses à raconter sur eux-mêmes. Et justement, Warhol va utiliser tout cet exhibitionnisme ou ce côté un peu égocentrique. Et il va parler avec le son. Alors bon, un son qui techniquement au début sera quelquefois très mauvais. Bon, dans certains films de Warhol, on a du mal à comprendre ce qu'il se dit, mais après il arrive à un certain niveau technique et on a de véritables trésors là de documents, des documents bruts, des paroles absolument spontanées et passionnantes sur la manière dont vivent un certain nombre de gens autour de lui.
L'astuce de Warhol, c'était de payer le loyer et que la porte soit toujours ouverte. Alors les gens venaient, ou la presse venait.
Et à chaque fois,
observer.
Il leur disait, je vais faire un film avec
vous.
Ah
oui, ça c'est sûr. C'était notre grande ligne. D'ailleurs, ou même quand on rencontrait des gens qui étaient richissimes, on leur disait, on veut faire un film, on a besoin d'un salon, est-ce qu'on peut venir chez vous? Alors le lendemain, on débarquait avec tout notre équipement dans leur salon. On disait, on a besoin d'une salle de bain, parce qu'on a toute une série de films où on faisait que des salles de bain, ou des cuisines. Alors on a visité comme ça toutes les maisons de New York. Ce qui fait qu'avec nos films, on pénétrait partout. D'ailleurs, on avait fait un film chez moi une fois, et à la suite de quoi, on a failli me jeter à la porte, parce qu'on avait fait le scandale, enfin...
Okay, I am a JD. So what? I like to bust things up and carve people up. And I dig the old up yours with plenty of violence. So it's real tasty. And then, if I get busted by the cops, so what? So what the hell?
Vous pensez que c'était un archéologue de l'instant ou quelque chose comme ça?
Oui, mais sans aucune... arrière-pensée épistémologique, enfin sans volonté de savoir, peut-être, encore une fois, je crois, beaucoup plus pour son plaisir.
Une volonté de jouissance.
Oui.
Jouir de l'instant, c'est ça?
Puis utiliser la jouissance des autres.
Oui.
Si. Y compris, oui, parce que c'était un cinéma très libre, finalement, et ça a contribué à changer l'image de New York, enfin l'image des États-Unis qui était un peu puritain jusque-là. Au fond, Warhol, c'est le moment où les États-Unis prennent le relais de Paris, enfin où New York prend le relais de Paris. Le Paris où allaient les Américains qui voulaient un peu, par exemple, où allaient Henry Miller ou Burroughs, c'est-à-dire un Paris où la vie, en général, la vie sexuelle est plus libre, ça va être remplacé par New York avec Warhol.
Jour tranquille à Chelsea.
Ah oui, jour tranquille à Chelsea, oui, oui. Ça, vous avez raison de parler de celui-là, de ce film-là, parce que The Chelsea Girls, qui est de 65, c'est peut-être le plus beau. C'est celui qui, d'ailleurs, a contribué à faire connaître Warhol comme cinéaste, qui a eu tout d'un coup un succès énorme, un succès de scandale, bon, qui a fait sortir, paradoxalement, le cinéma qu'on appelait, que les journalistes appelaient underground, en dehors du souterrain, justement. Parce que ça a eu un énorme succès, ça a été diffusé dans tous les États-Unis. Ce sont comme des cellules, ça se passe dans différentes chambres de l'hôtel Chelsea, où il y avait pas mal d'intellectuels, d'artistes, de drogués, des gens un peu marginaux, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et évidemment, les deux, c'est comme des cellules vivantes quoi, qui sont explorées l'une à côté de l'autre. Et le son n'est donné que d'un côté à la fois, parce qu'heureusement, on ne pourrait pas entendre deux fois. On peut voir peut-être deux images en même temps, mais on peut difficilement entendre deux conversations en même temps. Donc il y a le son tantôt à gauche, tantôt à droite. Et ce sont des tranches de vie, comme ça, dans ces hôtels... dans ces chambres d'hôtel de Chelsea, qui sont absolument passionnantes.
Yann Beauvais, Jean-Michel Bourg.
Il provoque aussi des situations. Il met en place des individus, mais regroupe des individus, donne vaguement quelques indications, et puis on filme. Quoi qu'il arrive, on enregistre. Donc quelquefois, il n'y a absolument rien qui se passe réellement. Ce n'est pas très intéressant.
Je crois que ce qui intéresse Warhol dans la mise en scène, ou plutôt dans la mise en projection des personnages, c'est justement leur vraie nature. C'est pour ça qu'il ne veut jamais avoir recours à la mise en scène. Il ne veut pas que les personnages jouent. Ils doivent uniquement en fait, se représenter, ne représenter qu'eux-mêmes et arriver à se représenter.
À partir du moment où il utilise des zooms et des mouvements de caméra, il va jouer presque volontairement à éviter systématiquement ce que l'on aimerait voir à l'écran. Alors, par exemple, quand Viva se fait renverser ou quelqu'un lui pisse dessus, le zoom s'en va ailleurs. Alors, parce que Warhol faisait autre chose. Et dans la plupart des films dans lesquels il y avait des actions comme ça, il oublie, c'est pas qu'il oublie, il va vers quelque chose qui n'a pas réellement d'intérêt pour la personne qui regarde.
D'où, finalement, l'accusation d'être frustrant pour celui qui regarde.
Frustrant si on attend une certaine linéarité, si on attend un certain développement.
Ou un récit.
Mais par contre, si l'on attend juste une prolifération d'images, une accumulation peut-être de moments particuliers lorsque des personnes se dévoilent, où il y a comme une fissure dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, là, c'est passionnant.
Mm-hmm. Et parfois, ça les rend agressifs, d'ailleurs. Les acteurs peuvent devenir très agressifs en tournant leur film parce qu'ils supportent assez mal ce genre de...
Absolument, oui.
Ce genre de mise à nu, en quelque sorte. Hein.
Parce qu'ils ont plus le sentiment d'être totalement manipulés.
Voilà.
Mais pas tout le temps non plus, parce qu'ils en jouent eux-mêmes de cela. Si l'on pense au Pope Ondine, lorsqu'il a soudain sa grande crise... On n'arrive jamais à savoir s'il est véritablement furieux avec la personne qui vient de le traiter de tous les noms ou la démasquer, ou s'il ne fait pas que jouer une chose supplémentaire. Donc c'est toujours ambigu.
Mais il y a un petit bijou qui s'appelle Eat, manger. C'est un film qui dure trois quarts d'heure. Et bon, c'est un film muet, mais c'est un gros plan d'un homme qui porte un chapeau, qui est en train de grignoter avec nonchalance un champignon. La nonchalance très warholienne. Et puis le champignon, il a beau le grignoter, il est toujours aussi important au bout des 45 minutes. Et on a l'impression donc que jusqu'à la fin des temps, cet homme au chapeau va manger son champignon.
Oui. Au fond, au sens strict, Warhol prend son temps.
Ah oui, absolument. Ça, je dirais que si on veut le rapprocher alors de Marcel Duchamp, c'est quelqu'un qui fait des ready-made, qui prend des morceaux comme ça de réalité, mais c'est des ready-made temporels. C'est des morceaux de temps, de durée vécue, qu'il capte comme ça, de façon brute, et puis qu'il nous restitue. Et puis à partir du moment où c'est projeté sur un écran, ça devient de l'art.
Vous pourrez voir jusqu'au 27 juillet au Musée national d'art moderne Centre Georges Pompidou Beauty 2, Blowjob, Chelsea Girls, Eat, Empire, Henri Getzaler, Kiss, Life or Juanita Castro, Lonesome Cowboys, My Hustler, New Dress Trends, Sleep et Vinyl. Everybody knows.